Here we go with the main event of the evening. Let's get ready to rumble!
Squat, gauche, droite, sur les zones pour mon bla bla bla. On y croit, nature au parti. Life de Rosemont, Arthur au Garci. On va jouer, carte sur table. J'en pense quoi du combat de Jean-Pascal? On va passer pro, boxer et podcast. Le temps c'est de parler, bienvenue sur le podcast.
And the new
cette édition du podcast Laurent s'écoute parler est rendue possible grâce à vous, nos auditeurs et à nos commanditaires chez Options Notaires et chez Farley Avocats. Sans eux, Laurent serait tout seul à s'écouter parler. Sans plus tarder, vas-y Laurent, on t'écoute.
En direct d'un 2,5 construit dans les années 40 à Rosemont, ici le 52e épisode de ton émission préférée, Laurent s'écoute parler. Épisode festif, vous avez entendu la musique, premier anniversaire du projet d'une vie pour moi. Moi, je me suis levé un matin, j'avais fait 62 épisodes avec Vincent Tremblay, puis Vincent... visiblement, sa vie était devenue trop occupée, vedette de TVA, pouvait plus me consacrer une heure par semaine. Donc, je me suis dit, il faut pas que j'arrête, mais avec qui je peux le faire? Puis, c'est pas juste avec qui, c'est d'être disponible les deux en même temps, puis c'est de trouver quelqu'un qui a la même folie que moi, parce que moi, je suis pas bien entre les deux oreilles, tu sais, je sais pas... C'est difficile. Vincent en arrache beaucoup d'essayer de m'endurer, mais quasiment au quotidien. Fait que je décide de faire le podcast tout seul, puis j'ai même pas d'idée. J'appelle mon ami qui est infographe, puis c'est un coup de tête. Je dis « Ah, on appelle ça Laurent, s'écoute parler, vu que je suis tout seul. » Puis c'est drôle. Puis j'avais l'idée de parler juste de boxe, mais dans l'introduction, de parler d'autres choses. Fait que je me suis dit... Ça fait pas référence à la boxe, ça va me permettre de pousser un 5 minutes. Tu sais, je voulais vous parler de pandémie. Puis ben finalement, ça me tentait plus. Fait que si on parle de boxe, la pandémie m'a causé bien du trouble. Parce que je vais vous le dire, moi, mon idée, c'était d'écouter les galas le samedi soir, de prendre plein de notes, de me coucher, de me lever le dimanche matin, de découper tous mes extraits, de monter ça, de faire des entrevues sur place au coin du métro avec des gens, des entrevues que j'aurais enregistrées dans un son impeccable. La personne aurait été devant moi, j'aurais donné rendez-vous aux gens, j'aurais fait mon montage. J'avais des idées plein la tête. Arrive la pandémie, depuis le 11 mars, j'ai travaillé, je pense, 94% des samedis, dimanches à temps double. Je fais juste travailler, je manque de temps libre, et puis là, il y a une partie de moi qui se dit « Tu peux pas abandonner ton projet. » Aujourd'hui, j'ai fait 8 heures à temps double au lieu de faire 12. Je perds de l'argent, mais je vis bien avec moi-même parce que je peux faire le 52e épisode. Je suis pris là entre le péché d'avarice de Séraphin Poudrier puis l'idée, le besoin de réaliser mes projets. Puis étant insécure de nature, j'en veux toujours plus d'argent. Comme j'ai déjà dit à quelqu'un, s'il y a 100 piastres à terre, tu vas te pencher pour le ramasser. C'est ça que je fais moi aussi. Je me penche puis je les ramasse toutes. Mais après ça, c'est d'aller chercher un équilibre. C'était la fin de la chronique économique. Mon ami Marie-Pierre Hull, je vais te compter ma semaine. Pas grand-chose. J'ai travaillé, j'ai dormi, j'ai fini Cobra Kai sur Netflix. Ils ont étiré la sauce. Il aurait pas dû nécessairement faire de deuxième saison. Scène sportive. On a appris que le Canadien allait recommencer le 13 janvier. C'est l'épisode numéro 52 en référence à Greg Rivet. Greg Rivet, on l'avait échangé aux Sharks de San Jose parce que Il était plus capable de patiner de reculons. Il avait de la misère à tourner d'un bord parce qu'il était trop vieux, mais il avait le caractère et l'attitude ainsi que du leadership. Sanusi a pensé que c'est ce qui leur manquait. Ils nous l'ont échangé en échange de Josh Georges et un choix de première ronde qui est devenu Max Pacioretty, qui est ensuite devenu Nick Suzuki, Thomas Tatar puis Mathias Norlinder. Donc vous voyez, Greg Rivet à 46 ans, il est chez eux en train de manger du popcorn. Puis vous, ben vous rêvez de voir Suzuki sur la glace. Tout ça découle de Greg Rivet. Bravo aux Canadiens qui ne gagnent pas toujours ces échanges. Cette semaine, je vais vous parler de Francis Lafrenière qui n'affrontera plus Steven Butler au Mexique. De tout ce qui s'en est découlé avec Butler, Volny, Eye of the Tiger, je vais vous parler de mon ami Antonin Descaries. Le mot-clé, ça va être « calme-toi, Antonin ». Je vais vous parler des réactions de Camille et Stéphane. On va parler de la suite des choses pour Volny, de la suite des choses pour Butler. On va parler de Marco Reyes, le fameux Marco Reyes qui supposément a un contrat pour affronter Butler puis que ça gèle tout ça. Je voulais vous parler de tout ça. Je vais vous parler de Jean-Pascal et Badou Jack. Est-ce que ça va-tu avoir lieu un jour? Je ne sais pas. Jean-Pascal, il fait des télé-réalités, puis en même temps, il signe des combats de boxe de l'autre bord. Je comprends pour plus rien. Je vais vous parler de Ali Akhmedov, qui est un méga prospect à 168 livres, mais sans dire que j'avais des doutes sur lui, je ne l'avais pas mis dans ma liste des 168 livres dangereux, parce que je voulais m'en tenir à Berlanga puis à Big Bully, qui était dans l'actualité. Je vous admets que je suis quand même satisfait, parce que ben il a perdu. Fait que là, j'ai l'air d'un surdoué, encore une fois, parce que il s'est fait jouer un petit tour contre un boxeur normé Gongora. Je vais vous parler au complet de cette carte-là aujourd'hui sur ton podcast favori. Je vais parler à John Ryder qui ne fait clairement plus peur à David Lemieux si Lemieux a écouté ce combat-là. On va parler de Golovkin qui était sur le ring. On va parler de Saúl Alvarez. On va parler de Frank Sanchez contre Julian Hernandez en faisant un détour par Arslanbek Makhmoudov. On va parler de Sergey Kovalev que les fils se sont touchés. Puis il a décidé d'affronter Bektemir Milikouziev, surnommé Bek Bully. C'est pas intelligent ça. Je sais pas qu'est-ce qui t'a pris, mais c'est pas une bonne idée pour commencer l'année. Puis, bien sûr, on va faire tous les tours d'actualité. Je vais vous parler un petit peu de mes projets de fin d'année. J'hésite entre vous sacrer ça dans le podcast numéro 53 ou faire des émissions sur le côté. Boxing Town Québec aussi. Vincent Tremblay m'a dit il faudrait qu'on fasse exploser le site puis qu'on devienne les meilleurs. J'ai dit on n'est pas déjà les meilleurs. Il dit oui, mais il faudrait distancer les autres. J'ai dit OK, on peut s'y remettre aussi. Fait que c'est un peu le menu. Je suis festif présentement. Je vous admets que je viens de popper un cidre Lacroix aux ananas. Je vous le conseille, 3,89 au dépanneur. C'était l'introduction du podcast premier anniversaire. Et j'aimerais saluer celle qui est devenue ma nouvelle meilleure amie du monde de la boxe, Martine Vallière-Bisson, parce que quand Céleste Baillargeon s'est trouvé une conjointe sur Badou, je suis passé deuxième.
Mais sans joke, je trouve que t'as l'air plus jeune que... T'as dit quoi? Passé 35, en tout cas. Je t'aurais peut-être donné, genre, max 35. Je trouve que ça se conserve bien, la rousseur.
Moi, dans la vie, là, j'aime ça, le trouble. Mais sans dire que j'aime ça le trouble, j'aime ça être diverti. Si tu me parles d'un combat de boxe, si tu me parles de Steven Butler contre Lafrenière, je le sais que ça va être bon sur le ring. Mais je veux tout le reste qui vient avec. Je veux des conférences de presse houleuses. Je veux voir Camille et Stéphane se pousser à qui mieux avec Stéphane Larouche puis la sécurité qui intervient. Je veux voir... Kim Clavel dans le coin de Francis Lafrenière avec Daniel Bouchard lancer des regards assassins à Camille et Stéphane Pantone et Descaries. Je veux que ça brasse, tu sais. Je veux être diverti. Je veux qu'on m'en donne. Je veux que le monde aille à la radio pour s'insulter. Sinon, c'est juste un combat de boxe, puis sans dire que c'est plate. Je veux pas non plus que ce soit fake, mais je veux juste dire, genre, il y a des gens qui s'aiment pas, puis dites-le, tu sais, comme j'ai trouvé cette semaine, ils nous ont annoncé, tu sais, Steven Butler, Francis Lafrenière avait annoncé que c'était son dernier combat en carrière. Là, il refuse d'aller au Mexique pour affronter Steven Butler. En gros, c'est ça, là. Francis Lafrenière refuse d'aller au Mexique affronter Steven Butler. Francis Lafrenière fait une annonce sur son Facebook où il dit « J'ai contacté Stéphane Loyer, je n'irai pas au Mexique. » Et là, j'aimerais savoir les mots exacts, je vais aller les chercher. Antonin Descaries, il sort publiquement pour dire « Mais voyons, tu sais, il y a un contrat, pourquoi il veut pas affronter notre gars? C'est pas un big deal d'aller au Mexique. T'sais, franchement, le gars, il a une famille, puis tout, ça, il tente pas d'aller au Mexique pour les raisons de son choix. Je veux dire, il n'y a pas de problème. » Là, Antonin Descaries, il dit ici, la situation dans laquelle on évolue est très particulière. Nous sommes en pandémie mondiale, en mesure de guerre. Le combat est à huis clos. Il n'y aura pas personne dans la foule. Les ministres de la Santé préparent un nouveau confinement. On peut pas demander de passe-droit. Puis là, il dit, je te comprends pas. Je te comprends pas, Francis. Mais là, en gros, moi, mon point, c'est ça. C'est que Francis fait bien ce qu'il veut. Tu sais, sur son contrat, c'était marqué affronter Steven Butler au Québec. T'sais. À partir du moment que tu changes le pays, tu changes le contrat, ça ne tente pas d'aller au Mexique pour des raisons de confinement. Et dit, je ne veux pas me retrouver comme un chien dans le sol avec ma femme qui me lance des sandwichs puis je peux pas voir mes enfants. Ça y appartient. Donc, bref, le combat est annulé puis j'ai trouvé la sortie de Descaries bien cavalière. Où j'ai trouvé Eye of the Tiger intelligent, c'est que le commun des mortels, il se revient puis il dit « Appelez Volny. Volny était prêt à affronter Butler. » Mais entre-temps, Volny, il est devenu aspirant obligatoire au titre... Il a obtenu le droit... Là, désolé, là, je viens de m'enflammer puis il y a le cil de la croix qui commence à monter au cerveau. Volny va affronter Patrice Wojcicki pour devenir l'aspirant obligatoire à la IBF. Le titre appartenant à Gennady Golovkin. Donc, on s'entend que quand ces enjeux-là sont sur la table, tu ne te diriges pas vers Steven Butler, un boxeur non classé, dangereux à souhait, pour tout perdre, puis te revirer, puis être en retard pour l'appel d'offres, ou pas avoir le temps de te préparer pour aller en Pologne, ou te faire couper. Ça n'a pas de bon sens. Fait que lui, on met le nom de Volny partout, on dit qu'on est prêt à affronter Volny. On force le clan Volny à sortir publiquement pour dire « Ben nous, on a un combat contre Wojcicki. Rappelez-nous plus tard. » Puis pendant ce temps-là, Steven Butler, lui, ce qui est bizarre, c'est qu'il cherche un adversaire. Puis là, moi, ce que je me demande, c'est quel niveau d'adversaire on va aller chercher, parce que au Mexique, tout est disponible. Tu peux avoir un gars de 30-0 classé. Tu peux avoir un gars de 18-10. Qui sait pas boxer. Tu peux avoir un gars de 10-18, ultra dangereux. Tu peux trouver tout ce que tu veux au Mexique. Mais entre-temps, Marco Reyes, qui était celui qui, entre guillemets, avait un contrat pour affronter Butler, qu'on nous disait, il s'est fait passer une violente varlope contre Josué Obando, un boxeur de 19-27. Il a perdu ses 4 derniers combats. Ça va faire bientôt 2 ans qu'il n'y a pas de victoire. Il a perdu par KO 2 fois. Tu peux pas arriver et affronter un gars qui a perdu 4 fois. Donc, ben, ça, j'ai l'impression que ça fonctionne plus, Marco Reyes, pour Steven Butler. Puis là, j'ai hâte de voir qui vont nous trouver au Mexique. T'sais. Pour vous donner une idée, le 9e meilleur boxeur de la division, c'est Paul Valenzuela, un gars que Butler a battu en 28 secondes sur un jab. Marco Reyes qui était classé 21. Est-ce que ce sera Omar Chavez qui est classé 7e? Est-ce que ce sera le frère de Canelo? Je pense pas que ça va l'intéresser, mais on sait jamais. Ramon Alvarez. En tout cas, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont nous patenter. C'est juste pour vous dire que, tu sais, Steven est dans son droit de ne pas aller au Mexique si ça lui tente pas. Et ma prédiction, surveillez bien Yann Pellerin. Si jamais il organise une carte avec en concert ou pas avec Yvon Michel, allez sortir Francis Lafrenière pour un combat de retraite contre un adversaire possiblement plus facile, mais en grande finale, il lui permet de se retirer à la maison à quelque part entre le mois de avril ou mai, quand on sera tous vaccinés. Donc, intéressant tout ça à suivre. Hâte de voir le niveau de l'adversaire de Butler. Puis l'autre chose que je veux vous dire, c'est qu'est-ce que Oscar De La Hoya fait pour ces gars-là? Tu sais, Steven Butler, Eric Bazinian, Yves Ulysse, Arslanbek Makhmoudov, est-ce que ça va devenir la première grosse erreur de Eye of the Tiger d'avoir signé avec Oscar De La Hoya qui ne semble plus avoir la tête et avoir le budget à la boxe? Posez-vous la question. On va faire le tour de cette question-là au début de l'année 2021.
Quelqu'un me disait un exemple hier, il va se reconnaître. Si quelqu'un veut rentrer avec un sofa dans un autobus, le chauffeur, il va pas le laisser rentrer avec un sofa dans un autobus. Ben, à partir de maintenant, on peut pas rentrer dans un autobus si on n'a pas un masque. Quelqu'un me disait un exemple hier, il va se reconnaître. Si quelqu'un veut rentrer avec un sofa dans un autobus, le chauffeur, il va pas le laisser rentrer avec un sofa dans un autobus. Ben, à partir de maintenant, on peut pas rentrer dans un autobus si on n'a pas un masque.
J'aimerais ça que Mathieu Boulay me fasse un beau papier, genre, pour m'expliquer ce qui se passe avec Jean-Pascal. Comment il peut être en tournage le premier trimestre de l'année de l'émission Big Brother, tout en étant à Porto Rico à s'entraîner avec Stéphane, pas de E Larouche, pour un combat de revanche contre Badou Jack. Si je comprends pas trop comment qu'il s'est rentré dans l'espace-temps. Tu sais, on peut pas être à deux places en même temps, à moins que Big Brother soit tourné au Mexique, là, ça, pas au Mexique, mais à Porto Rico. Donc, Jean-Pascal affronterait dans les prochaines semaines Badou Jack. Ça va être une revanche. Jean-Pascal qui a pas boxé depuis le 28 décembre 2019. Badou Jack, lui, entre-temps, a battu un gars des Marines qui avait pas d'affaires dans le même ring que lui, un dénommé Black McKernan. Donc, voilà, Jean-Pascal, j'ai hâte de voir comment il va gérer tout ça, d'être au Mexique et au Québec, pas au Mexique, à Porto Rico et au Québec en même temps, ce qui n'est pas simple quand même, pour tourner cette émission de vedettes d'un certain âge qui font de la télé-réalité, si j'ai bien compris. Il y avait des bons combats, je veux dire, on s'est fait gâter là, en fin de semaine, avec deux cartes de DAZN. Tu sais, ceux qui payent DAZN, au moins, comme moi, je le paye, tu sais, mais là, c'est dur de chialer. Tu sais, on a la NFL, puis tu m'as donné Golovkin et Canelo dans la même fin de semaine. Fait que j'étais quand même assez heureux. Du côté de la carte de Golovkin, c'était une carte... C'était une bonne carte quand même, là. J'ai commencé à écouter quand... Richard Matty a battu Denis Aucott. Ça a commencé comme ça. Matty, qui est un boxeur de la région du Kazakhstan, pareil comme Golovkin, un bon boxeur. Bien fait ça. Je l'ai mis sur ma petite liste. Après ça, il y avait une Coréenne nommée Young Mi Choi. Elle affrontait Calista Selgado. Et là, tenez-vous bien, vous allez la trouver bonne, celle-là. Selgado avait une fiche de 19 victoires. 11 défaites, était 19-0 en Colombie, puis 0-11 à l'étranger. On peut dire que c'est une fiche relativement protégée. John Ryder a affronté Mike Guy, Michel Garçon. Puis Mike Guy, là, c'était un petit trapu qui a pas l'air peureux. Genre. Puis il a pris tout ce que Ryder avait à donner. Ryder paraissait, sans dire qu'il paraissait mal, là, il lançait sa gauche, puis lui, c'était un gaucher, puis je trouvais qu'il était comme ouvert. Puis là, Mike Guy, qui est un petit trapu, il passait une coupe de petite droite, mais il l'a jamais dérangé. Si le John Ryder de vendredi se présente contre David Lemieux, il va falloir réserver une aile à l'hôpital pour essayer de soigner John Ryder. Je dis, il est pas prêt. Il est pas prêt, mais il est pas prêt. Je dis, il est super bien paru contre Callum Smith, mais là, en fin de semaine, il a rien donné. Fait que, si je suis David Lemieux, c'est sûr, je refuse pas un combat contre lui. Ali Akhmedov menait au juge, mais il travaillait très dur contre Carlos Gongora quand il s'est fait knocké deux fois au 12e round. L'arbitre a été obligé de mettre fin aux hostilités. Un uppercut sorti de l'enfer. Carlos Gongora, ça me disait pas grand-chose, mais je vais le mettre sur une... Sans dire le mettre sur une liste, c'est un gars qui est 19-0, qui a... Oui, a 31 ans, mais là, vient de battre Akhmedov sur la télévision, donc... Je sais pas si ça pourrait devenir un jour un adversaire... possible pour soit Bazinian, Mbili ou David Lemieux, mais c'est certain que c'est de plus en plus intéressant de suivre la division des 168 livres à cause de ce qui se passe au Québec. Golovkin a affronté Kamil Zrezemata, il l'a arrêté à la fin du... Mais on dit début du 8e, mais entre le 7e et le 8e, son clan a dit « Ok, ça commence à faire, là ». Golovkin l'avait envoyé 5 fois au tapis. Zrezemata, qui est un gars qui était costaud, mais sans plus, tu sais, frappait pas très fort. Très courageux, par exemple, même un petit peu trop courageux pour son amour propre. Puis Golovkin s'est pointé dans la shape de sa vie. Vraiment très, très musculaire. Et a fait un beau combat, comme lui seul a le secret. Paraissait plus agressif que l'habitude, mais ça, je pense que c'est à cause que son adversaire avait vraiment pas de force de frappe. Fait que ça l'a comme convaincu qu'il pouvait prendre un peu plus de risques. Dans l'autre, super soirée, samedi soir, Saúl Canelo Alvarez. Puis tu sais, ce Canelo, là, je l'aime pas, mais il faut que j'admette que, tu sais, je voyais tout le monde, là, il y a plein de monde qui m'ont écrit, hey, je viens de m'abonner à Dazone, ça vaut ça la peine? Puis là, je disais, ben oui, tu sais, ils viennent de s'abonner, je suis pas pour leur dire que ça vaut pas la peine, surtout que je suis abonné moi-même. Puis là, je voyais beaucoup de monde se connecter, beaucoup de monde se prendre en photo avec leur télévision. Mon ami Pierre-Marc Fréchette, il m'a écrit, puis il m'a dit, tabarouette, Austin William, il est rapide, j'ai dit, cligne pas des yeux, l'autre d'après est encore plus vite, Roman Raymond Ford. Fait que Austin William, son surnom, c'est Amo, comme munition. C'est un gaucher qui évolue chez les moyens. Tu sais, souvent, je vous achale avec ça. Je dis, c'est à surveiller ça. Ben, Austin William est un prospect de très bonne qualité. Un gars de la région du Wisconsin qui vit maintenant au Texas. Je suis en train de vous lire BoxRec. Donc, il y avait un adversaire, Izia Jones, hier, il l'a knocké en quelques secondes. Mais oui, t'as surveillé notre ami Austin William. Du côté de Raymond Ford, lui, c'est un gars... Mon ami Fréchette, il m'a écrit encore, il m'a dit « Hey, lui, il est bon, il est encore plus vite, mais on dirait qu'il frappe pas fort. » Son surnom, c'est Sauvage. Raymond, le Sauvage Ford, il a juste 21 ans. Un gars du coin de New Jersey. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a New Jersey, une grosse culture de boxe, puis les gens achètent des billets en fou. Il a gagné au 7e contre Juan Antonio Lopez. Donc, c'est à surveiller chez les 130 livres. Ça va juste être un peu plus long parce que, vu qu'il est jeune, là, j'imagine que... Tu sais, ils vont faire ça tranquille avec lui, un gars qui a une belle carrière amateur. Il y a eu aussi, il y avait un combat entre Christian Gomez et Angel Hernandez. Je dormais parce que je travaillais à matin. Puis Frank Sanchez, ok, ça c'est intéressant. Puis ça c'est intéressant, puis ça m'a fâché un peu. Frank Sanchez, allez voir Frank Sanchez. Allez voir son BoxRec, c'est un boxeur poids lourd de 28 ans. Qui a l'air d'en avoir 184 quand tu regardes son BoxRec. C'est sûr que ça marche pas, là. Sa photo, là, ça a l'air d'un vieillard, ok? C'est un gars qui est né à Guantanamo, qui a, je sais pas c'est quoi le terme, déféqué, ou, en tout cas, il s'est sauvé de Cuba pour revenir vivre à Las Vegas. Son surnom, c'est The Cuban Flash. Puis lui, il est dans toutes les histoires, tu sais, de prospects à surveiller. Il revient toujours son nom à Frank Sanchez. Grosse carrière amateur à Cuba. Il est sorti, je pense, une seule fois pour aller au championnat du monde. Au championnat du monde junior, où il s'était fait vaincre. Puis pour le reste, sa carrière a eu lieu à Cuba. Mais vous l'avez vu que Luis Ortiz peut faire pas mal toute ta carrière amateur à Cuba. Puis t'as une grosse carrière amateur, même si t'es jamais sorti. Un gars qui s'est aussi battu en série mondiale de boxe. Quand à un moment donné, les séries mondiales sont venues à Cuba, fait que s'est dit, ben, tu sais, je vais me battre tant qu'à être là. Et là, chez les pros, c'est un gars qui est 17-0. Mais là, ce qui nous intéressait, là, on va en venir au sérieux de la chose, il a affronté un gars que vous connaissez bien, Joey Daweshko. Donc, il a gagné tous les rounds contre Daweshko. Puis là, hier, il affrontait Julian Fernandez. Deux gars qu'on a connus au Québec. Là où c'est intéressant, c'est que Fernandez était venu au casino. Il a fait trois rounds avec Arslanbek Makhmoudov. Puis pour vrai, c'était bien débrouillé. Là. Je dis, le gars essayait. Le gars passait une coupe de claques. C'était pas si pire. Genre. Puis il est arrivé hier. Il a perdu au septième round contre Frank Sanchez. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que le monde, là, ils font comme vous et moi. Ils vont sur BoxRec pour checker Julian Fernandez. Ils vont découvrir que Arslanbek Makhmoudov l'a fini en 7 minutes. Arslanbek est sur toutes les lèvres. Arslanbek est sur toutes les comparables BoxRec. Arslanbek est dans toutes les top prospects. Il faut absolument qu'Oscar de la Hoya investisse sur Arslanbek. Ou que, je sais pas, avoir Camille, il va falloir que tu payes toi-même l'adversaire, mais Arslanbek est prêt à éclore, il est prêt à être vu du grand public. Il faut trouver un moyen pour que Arslanbek soit vu de tout le monde. Ça prend un autre Sam Peter, mais c'est de meilleure qualité. Il faut que Arslanbek soit vu de tous. Puis en grande finale, c'est... Mais écoutez, ça, je suis déprimé. Là. Saúl Alvarez a peint un chef-d'œuvre contre Callum Smith. Alvarez semble invincible. Callum Smith semblait avoir aucune réponse, aucun jab, aucune portée. C'était pas beau. J'étais même triste un peu. Je m'attendais à avoir un combat très serré. Donc là, vous allez me demander la question suivante. C'est qui peut battre Saúl Alvarez? Ben, le problème, c'est qu'Alvarez, il veut pas redescendre à 160 pour affronter Golovkin ou Charlo, ce qui serait l'intérêt qu'on a un peu. Puis, il veut pas monter à 175 parce qu'il s'est mis dans la tête qu'il voulait unifier les 168 livres. Donc, les gars qui peuvent aller devant lui, puis, tu sais, être assez bon pour que dans nos têtes, on se dise, oh, faut que je paye le combat, oh, il faut que je sois assis devant ma télévision. Qui est assez bon pour nous convaincre de s'asseoir devant une télévision? Puis, en même temps, si tu veux unifier, ben, il faut que tu affrontes les champions. Fait qu'il y a Caleb Plante, qui lui va aller perdre son temps contre Caleb Truax. Caleb Plante, il a les mains très vives, il y a toute une histoire derrière lui, donc on peut penser que c'est le choix numéro 1 aux États-Unis, mettons. Sinon, on pourrait affronter Billy Joe Saunders, mais Billy Joe Saunders, il l'a bien averti. T'sais, moi, ça me dérange pas de t'affronter. Je veux signer le contrat 12 semaines à l'avance. Je suis pas Callum Smith qui prend un combat avec 4 semaines. Moi, je veux mes 10 à 12 semaines de camp d'entraînement. C'est la bonne chose à faire, Billy Joe. Mais tu veux affronter Saúl, fais-le au même niveau de préparation. Sinon, puis moi, c'est mon choix, mais ça arrivera jamais. J'aime beaucoup Dimitri Bivol, qui lui dit qu'il pourrait facilement faire les 168 livres. Je trouve là que Bivol, tu sais, il a l'expérience amateur. Il est allé aux séries mondiales de boxe où il est invaincu. Chez les pros, il a juste 17 combats, mais il a déjà 11 victoires. Puis tu sais, c'est un gars qui, pour battre Canelo, il faut que tu sois ultra discipliné. Puis Bivol, il est un peu étrange, mais il s'en fout de pas donner de spectacle. Tu sais, il est arrivé contre Sullivan Barrera, puis il a peint un chef-d'œuvre. La vitesse, les angles, les déplacements, contrôle la distance, il se met jamais en danger. Il arrive contre Chilamba, c'est un petit peu plus difficile, mais il y a des 120-108 au juge. Contre Jean-Pascal, vous l'avez vu, Pascal dit qu'il avait la plus grosse grippe de sa vie, mais Pascal n'avait pas l'air de niveau, puis il est devenu champion du monde par après, donc il est de niveau, il était juste pas du niveau à Bivol. Joe Smith, vous l'avez vu, débattre votre préféré, Eléider Alvarez. Joe Smith s'en va en championnat du monde contre Maxime Vlasov. Il n'a pas gagné le moindre round à part le 12e contre Bivol. Puis là, Bivol, il vient encore une fois de régler le problème de Lénin Castillo. Tu sais, c'est un gars qui, présentement, fait des 120-108 contre Barrera, Chilamba, Pascal, Smith, Castillo. Il est fort, il est fort. Est-ce qu'il va vouloir descendre à 168? Il aurait l'avantage du gabarit. Il peut matcher la force. Et techniquement, il est bon. Moi, j'étais un gars de Bivol. Puis pour Beterbiev, oubliez ça, il ne peut pas descendre à 168. Un jour, Canelo, toutefois, n'est pas peureux. Je pense que Canelo va aller affronter Beterbiev quand il va avoir 39 ans et demi après le Ramadan. Tu sais, il va se payer toutes les chances puis il va finir par y aller contre Beterbiev. Bref, j'haïs Canelo, mais ce gars-là est beaucoup trop fort pour la Ligue. Et je vous l'ai déjà dit, je vais vous le répéter, gagez jamais contre un roux.
Bonjour, mon nom est Léla Baudouin, je suis boxeuse professionnelle et je veux que vous sachiez que je peux pas vivre sans Laurent Poulain.
La vie est un combat. J'avais enregistré l'épisode 52. Là, on est au lendemain de l'épisode. Je l'ai mis en ligne. C'était effrayant. J'avais accroché les pitons. Je pensais que j'avais tout perdu. Là, finalement, j'ai appuyé 14 fois sur le piton reculé. Ça a bloqué à 31e minute. J'ai pesé sur récupérer. Puis on est où ce qu'on est rendu aujourd'hui. Donc, l'épisode 52, le lendemain. Donc, je vais finir l'épisode. Et vous êtes chanceux parce que ce matin, je me posais des questions sur Steven Butler. Et là, on a la solution. Steven Butler fera face à José de Jesus Macias le 30 janvier au Mexique. De Jesus Macias, ça, c'est un Mexicain qui est venu ici à Montréal affronter Michael Zuski chez les 154 livres. Il a cassé le nez à Zuski. Il y avait du sang partout dans le ring. Zuski l'avait remporté. Il a offert une bonne opposition au confrère français de Christian Billy, Souleymane Sissoko. Il a affronté le cogneur Kerman Lejarraga. Et là, il va affronter Steven Butler. C'est un gars qui a déjà vaincu Francis Lafrenière. Donc, l'idée étant d'admettre Lafrenière contre Butler, ben on surveille puis on place celui qui a battu Lafrenière. Bon, bravo! Je suis bien content, mais la question que je veux poser, c'est que, tu sais, je lis François Pratt sur Boxing Town, il écrit « On veut montrer que Steven est ailleurs. » Mais si Steven est à ce point ailleurs, pourquoi il affronte les mêmes adversaires? Tu sais, j'ai hâte... Tu sais, Steven est rendu à 32 combats en carrière. J'ai hâte qu'on ouvre la machine, qu'on amène des adversaires américains, qu'on voit réellement ce que Steven a dans le ventre sur une carte de Golden Boy promotion, qui, je demande à Oscar, qu'est-ce que tu fais ces derniers temps pour nos boxeurs québécois? Je sais pas, Oscar, t'es où? Ça commence à être long. Donc, bravo. Quand même intéressant. Tant que ça me coûte pas trop cher sur Punching Gray, je vais être à l'écoute. Ça a été confirmé que que Sadreddine Akhmedov allait affronter Stephen Daniel sur la même carte. Il y aura ma préférée de Québec, Léla Baudouin, aussi sur cette carte. Eye of the Tiger promotion, sans dire méga surprise, là, prolonge une entente avec TVA Sport pour un autre 3 ans qui garantit un gala au Centre Vidéotron par année et des galas des galas en complémentarité avec Punching Grace. Donc, c'est ce que vous allez avoir, c'est, j'imagine, que quand il va avoir des soirées de 9 combats, ils vont en, mettons, les 6 premiers vont être sur Punching Grace. Après, ça va être gratis sur TVA Sport qui va passer la boxe après le Canadien. Tu sais, il avait fait ça une couple d'années, puis il y avait eu des codes d'écoute de feu. Il mettait le Canadien de Montréal, exemple contre Toronto, puis à 9h30, il swingait 3 combats de boxe. Les gens changeaient pas de poste parce qu'ils avaient vu la pub, Puis là, ça faisait des excellentes cotes d'écoute. Et tant mieux, parce que moi, je veux que ce podcast-là ait des millions de cotes d'écoute. S'ils peuvent associer la boxe aux Canadiens un peu, ça, ça fait de la cote d'écoute. Là, les gens vont aimer la boxe. Ils vont vouloir écouter le meilleur podcast pour s'instruire. C'est lequel le meilleur podcast? C'est le mien. Fait que, continuez à faire ça. Aussi, grosse nouvelle, Christopher Guerrero a signé avec Eye of the Tiger Management, un gars qui a une superbe coupe de cheveux, qui est anglophone, mais qui apprend, qui se débrouille en français. Là, il peut te casser le français un peu. Trois fois champion canadien, gagné les Jeux du Canada en 2019, boxé à l'international en Tunisie, entraîné par Mike et Giuseppe Moffa. Un droitier, 150 livres, main vive, bonne puissance, bonne défensive, créatif à l'attaque. Souvent, c'est comme ça, les boxeurs de Mike Moffa. Moffa, là, je vais vous conter une anecdote. Une fois, j'étais au combat d'Herman Ngoudjo. Pas Herman Ngoudjo, c'était Ghislain Madouma qui affrontait un Anglais. Il avait perdu au 11e round. Puis il y avait des gens dans la foule qui criaient. Quand Madouma commençait sa combinaison qu'une main arrière ou un crochet de la main avant, ce qui est moins classique, on est habitué de voir les combinaisons partir avec le jab. Les gens dans le coin du métro criaient « C'est le spécial Moffa! » La combinaison part avec un crochet, un peu pour garder l'adversaire sur le qui-vive. Anecdote de Mike Moffa. Christopher Guerrero, la dernière fois que je l'ai vu boxer, c'est contre Alexandre Gaumont. Il avait perdu, mais il montait de catégorie de poids une semaine avant les championnats. En tout cas, c'était pas, ça voulait plus ou moins rien dire. Donc, Eye of the Tiger sont en feu, puis je veux juste faire un commentaire. Les gens, ils vont dire, « Ouais, tu commences à être critique avec Eye of the Tiger. » Oui, mais imaginez, ils sont seuls sur la patinoire. Je suis critique, mais en même temps, j'ai goût de dire merci. Un matin, j'avais la discussion avec Vincent Tremblay, je dis, « Est-ce que Camille Estéphane, c'est l'homme de l'année en boxe au Canada, au Québec? » Tu sais, c'est lui qui est allé devant... C'est lui qui est allé devant le juge, pas le juge, mais c'est lui qui est allé à Québec devant le gouvernement. C'est lui qui paye pour organiser des galas. Il y a deux ceintures en jeu sur la carte de Steven Butler. Il n'y aura même pas de monde dans la foule. Veux, veux pas, même s'il n'est pas parfait, Camille Estéphane a clairement pas peur de piger dans ses poches pour investir dans la boxe québécoise. Puis on est chanceux, parce que si c'était pas de lui, là, je vais vous dire, ce serait assez mince, merci, de la scène locale sur mon podcast. Autres nouvelles qui sont arrivées depuis hier, il n'est pas arrivé grand-chose. Teofimo Lopez s'est fait offrir 10 millions de dollars pour affronter Devin Haney, à suivre. Et Tim Zhu devrait affronter Patrick Teixeira. Tim Zhu, c'est risque d'exploser l'année prochaine. Je vous l'annonce. Et si vous êtes comme moi des lecteurs du Journal de Montréal, Mathieu Boulay, super texte ce matin sur Canelo, magnifique plume. Bravo à mon ami Mathieu Boulay. Alors, j'espère avoir sauvé un peu le podcast, avoir amélioré le son. Merci d'avoir été là. Plusieurs projets dans les prochaines semaines. Je vais faire des podcasts hors série avec Vincent Morin, Jean-Philippe Ouimette, ainsi que mon bon ami Victor Kenny Chéri. On va s'interroger sur la suite des choses en 2021. On va faire des plans. J'ai des questions plein la tête. J'ai des questions là, comme je vais vous en poser une à vous tout de suite. À quoi que sert Oscar de la Hoya pour Arslanbek Makhmoudov, Eric Bazinian, Steven Butler puis Yves Ulysse? Ça va être une de mes questions. Je vais parler matchmaking avec Vincent Morin. On va se poser des questions sur l'inactivité de certains boxeurs comme Marie-Ève Dicker. Est-ce que c'est vraiment la bonne stratégie d'attendre après Clarissa Shields au lieu de faire tes choses quand il n'y a pas de... Tu sais, mets-moi un contrat officiel sur la table, sinon ben je vais continuer à faire mes affaires. Est-ce la bonne stratégie? Je vais parler de tout ça avec mes trois bons vieux amis. Merci d'avoir été là et à la prochaine.